Nous accueillons Sophie maintenant au 3921. Bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Comment allez-vous, ouais, Sophie ?
Ça va. Je suis un peu intimidée. Oui, ça va. Voilà, je voulais vous exposer un petit peu ce qui m'est arrivé. En fait, il y a 11 ans, j'ai subi par un proche, enfin un membre de ma famille proche, une agression sexuelle, un guet-apens en quelque sorte, que j'ai pas vu venir du tout.
D'accord. Quel âge avez-vous, Sophie ?
Moi, j'en ai 44.
D'accord, donc ça vous est
j'avais
arrivé.
J'avais trentaine, oui,
33 ans.
30, oui, c'est ça.
D'accord.
Et vraiment, j'étais quelqu'un qui n'avait pas peur de grand-chose, qui me faisait un métier, enfin, qui l'a fait longtemps, où je pouvais être parfois exposée à la violence. Enfin, j'ai fait aussi. J'ai eu une jeunesse comme tout le monde, où j'aurais pu à un moment être agressée, par exemple, dans la rue, en rentrant tard le soir ou en prenant le train. Ça m'était jamais, jamais, jamais arrivé. Donc, vraiment, j'ai subi la sidération, parce que je ne m'attendais pas à ça de cette personne. Je ne m'attendais pas à ça à ce moment-là.
Vous connaissiez cette personne ?
Ah oui, c'est un membre proche de ma famille, oui, oui.
D'accord.
C'est quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi, que j'ai élevé, mais qui était déjà un adulte, plus fort et plus fort physiquement. Et puis, je n'attendais pas ce genre, que je n'imaginais même pas ce genre d'agression. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette agression, donc
alors,
j'ai réussi
peut-être, peut-être, Sophie, vous pouvez nous expliquer, parce que vous nous dites que ça, vous êtes tombée dans un véritable guet-apens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, dans quelles circonstances, en fait ?
En fait, donc j'étais revenue voir ma mère en week-end.
Oui.
Et cette personne habitait à côté. Et elle m'a appelée plusieurs fois, alors que je connaissais... Je connais sa copine, je connais tout le monde. Et cette fois-ci, elle n'était pas là et il m'a appelé plusieurs fois pour venir le voir. Voilà. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, puisqu'il insistait, j'ai dit, il était 20h, 20h15, j'ai dit, bah, d'accord, il habitait la maison d'à côté. Et en fait, à peine arrivé, j'étais à peine assise qu'il m'a sauté dessus. Donc là, j'ai essayé de le convaincre d'arrêter. Mais physiquement, j'étais comme molle. J'arrivais pas à rassembler mes forces pour me débattre. Et je ne pouvais que parler. Je disais d'arrêter. Là, il m'a saisi, il m'a traîné. Et c'est une fois à l'étage, quand il m'a relâché, que j'ai réussi à m'échapper, mais en sachant qu'avant, il avait réussi à essayer de me déshabiller et de partir. Enfin, c'était assez... C'était allé quand même assez
loin.
Oui,
c'est allé très loin. C'est une tentative de viol, voilà, que vous avez vécue.
Disons que, oui, même juridiquement, on pourrait dire que c'est un viol, mais j'ai un peu encore, moi, 12 ans après, du mal à l'admettre. Donc, je suis passée par une phase de sidération. Ensuite, j'ai eu du mal à accepter. Le lendemain, j'ai essayé... d'avoir une discussion avec lui. Là, il m'a menacé physiquement et il m'a insulté en me menaçant de ne pas parler.
Vous avez essayé d'avoir une discussion avec lui en tête à tête ou...
Oui, je suis allée le voir le lendemain matin. Je suis allée le voir en lui disant, mais tu te rends compte de ce que tu as voulu faire ? J'ai voulu... Là, j'ai bien compris qu'il n'avait aucun remords. Aucun. Voilà. Il était tout à fait confiant quand il l'a fait. Il n'était pas sous l'effet toxique ou de quoi que ce soit. Il était pleinement conscient de ce qu'il a fait.
C'était quelqu'un qui avait déjà tenté ce type de choses lorsque vous étiez plus jeune ? Est-ce que,
Non. Non, jamais. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Vraiment. J'aurais jamais pu imaginer ce genre de comportement. Non, j'arrive encore toujours pas à comprendre pourquoi ça s'est passé.
Cet homme, en fait, mener une vie équilibrée, en fait.
Tout à fait, oui, tout à fait. Il l'amène encore. Hein. Moi, j'ai eu du mal à me reconstruire, mais lui, depuis, il est pleinement épanoui dans sa vie. Il a eu un enfant avec un compagne qu'il avait déjà avant l'agression. Donc, puisque tout le monde a tué, en fait. Ce qui est le plus dur pour moi, déjà, c'est l'agression. L'agression d'un proche. L'agression d'un proche en qui j'avais pleinement confiance, que j'avais, moi, aidé et soutenu. Parce que je suis plus âgée de 10 ans, donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aidé, que j'ai beaucoup...
Accompagné, en tout cas.
Accompagné, et
j'entends,
oui, oui.
J'entends que vous avez eu du mal parce que vous n'avez pas été reconnu par vos proches comme victime. On va continuer à évoquer cela ensemble, si vous le voulez bien, Sophie, mais on va se retrouver après le journal de 23h, d'accord ?
D'accord.
À tout à l'heure. 23h passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1, la radio bleue, la radio qui écoute changer le monde. Et vous êtes sur votre libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin. Nous sommes avec Sophie qui nous parle ce soir de l'agression sexuelle qu'elle a vécue par l'un de ses proches. Il y a maintenant 11 ans, Sophie nous explique que elle a d'abord été très choquée par l'attitude de cet homme qui l'avait attirée un soir chez lui, alors qu'elle visitait pendant quelques jours sa mère. Et nous apprêtions, Sophie, à parler de l'attitude de vos proches, car je suppose que vous avez fait part de ce qui s'était passé à un moment. À qui vous en avez parlé de tout ça ?
Alors, au début, j'ai eu la chance de pouvoir en parler à une amie et à mon médecin de famille qui m'ont cru immédiatement. Donc là, vraiment, j'ai eu du soutien. Qui m'a demandé et ensuite, ils m'ont demandé d'en parler à ma famille. Et là, ma sœur a été déjà très réticente à y croire, mettant cela sur le compte de l'alcool, qu'il était sûrement alcoolisé, que c'était une tragique méprise.
Donc, tragique méprise.
Oui, voilà, c'était jusqu'au moment où je lui ai décrit les faits, les détails, et elle a fini par un petit peu concéder, mais je crois que c'était trop violent pour elle d'entendre que ça puisse être possible. Et après, elle m'a demandé d'en parler à notre mère, et là, j'ai été réticente parce que je la connaissais et je savais que la parole de la femme dans notre famille a très peu d'eux. Place par rapport à la place de l'homme. Et je sentais que j'avais une appréhension. Et j'ai pas eu tort parce qu'en fait, quand je lui ai expliqué, elle ne m'a pas cru. Ensuite, elle m'a dit que c'était sûrement parce qu'on était alcoolisés, alors que moi, j'étais complètement à jeun. Je venais d'arriver, j'avais rien pris, j'avais l'intention de rien prendre comme alcool. Enfin, c'était hallucinant. Et je lui ai dit, voilà, c'était un an après, donc je lui ai dit mon intention de porter plainte. Et là, elle m'a dit, toi, je t'aime bien, mais lui, je l'aime. Si tu portes plainte, je me fous en l'air.
Comment se fait-il que votre mère réagisse de la sorte ? Parce que vous avez eu des mots là concernant la place de la femme, la parole de la femme dans votre famille, cette parole qui n'était pas crue. Dans quel milieu vous avez grandi et pourquoi cette parole était-elle négligée ?
Alors moi, j'ai vécu en pleine campagne dans un milieu agricole. Alors ceci n'explique pas cela. Mais c'est vrai que ma mère a une dévotion, par exemple, totale vis-à-vis de mon père. Mon père peut tout faire, elle lui sait tout. Moi, je sais que j'ai souffert parce que, étant petite, il a déclenché une bipolarité à l'âge de 40 ans et elle a caché pendant près de 10 ans les symptômes.
Oui.
Donc, on avait le droit à tout. Les réveils à 3h du matin, il m'a menacé au couteau, il m'a jeté des verres d'eau à la figure quand j'avais 8, 10 ans, 13 ans. Enfin bon, ça a été assez difficile. Et mes sœurs étant bien plus âgées que moi, j'étais seule dans la ferme avec mes parents. Et ce n'est quand il a eu un épisode vraiment dépressif et qu'il s'est caché qu'elle a été obligée d'appeler les gendarmes pour faire une battue et qu'on l'a trouvée vraiment au fond d'un grenier et que là, elle a accepté de le faire voir par un médecin et qu'on a déclenché un traitement médicamenteux pour réguler la bipolarité.
Oui.
Mais il a toujours été comme ça extrêmement agressif sur les périodes excitées et elle le laissait complètement faire.
Mmh.
Voilà.
Elle l'a toujours couvert en fait dans ses comportements.
Et même vis-à-vis du voisinage, on a eu par exemple des voisins, je pense à deux voisins, un qui avait abusé de sa belle-fille qui était mineure et l'autre qui avait abusé d'une jeune femme handicapée mentale. Ils ont fait tous les deux reconnus coupables, séjour en prison. Ils ressortaient et venaient à la ferme prendre un café. Et moi, je ne supportais pas. C'est extrêmement violent pour moi. Notamment, la jeune mineure était une camarade de classe. Et ma mère disant, ma grand-mère disant, enfin mon père disant, ils ont fait leur peine. Voilà.
Vous savez, ce que vous racontez, j'ai eu l'occasion de le vérifier hein, souvent en campagne. Alors, moi, maintenant, avec les jeunes générations, je dirais que les quadras aujourd'hui qui sont agriculteurs sont bien évidemment plus. Font plus attention à tout ça. Mais c'est vrai que longtemps, ce type d'affaires incestueuses, hein, souvent, eh bien, c'était quelque chose de très répandu dans les campagnes et d'énormément. Couvert, en tout cas, c'était tout à fait tabou, on n'en parlait pas. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai entendu parler d'affaires où la famille faisait vraiment bloc derrière l'agresseur.
Oui,
quitte à vraiment enfoncer les victimes, quoi.
Ah, mais complètement, mais moi je l'ai vécu. Et moi j'ai vu aussi ma mère me dire bon, quand tu vas à l'école, j'avais 8-10 ans, non moins de 10 ans, puisque c'était l'école primaire, me dire, bon, quand tu évites de passer devant cette maison-là, je partais à l'école toute seule. Et elle ne m'a jamais expliqué pourquoi, mais c'était juste parce que c'était un pédophile. Et moi, j'hallucine, parce que moi, mère d'enfant, maintenant, je ne comprends pas comment elle me laissait aller seule à l'école, en sachant que je pouvais passer devant, ou qu'il était devant chez lui. Enfin, c'était un... Alors, je ne sais pas, un mépris du danger, ou voilà, en se disant que... Je ne sais pas. Enfin, quand vous dites que c'est caché, oui, complètement.
Oui, c'est caché.
Et voir, minimiser, oui. Et moi, ma mère a été très claire. Quand je lui ai dit que je vais porter plainte, elle m'a dit, toi, je t'aime bien, mais lui, je l'aime. Si tu portes plainte, je me fous en l'air. Et j'en ai beaucoup voulu, parce que... Malgré le fait que ma sœur soit intervenue, qu'elle l'ait convoquée, qu'il ait avoué les faits devant nous, devant ma sœur et moi, de peur surtout que je porte plainte, donc il a avoué complètement, me demandant son pardon, mon pardon, mais moi je ne voulais pas pardonner parce que je savais très bien que c'était juste la peur du dépôt de plainte qui le faisait s'excuser,
oui.
Et pas le remords sincère. Eh bien, malgré ça, toujours, toujours minimiser les faits. À demander quelle était ma part de responsabilité aussi là-dedans.
Alors que si vous aviez été supporté par les vôtres, vous ne vous seriez pas posé ce type de questions, croyez-moi. Vous avez cédé à la pression familiale, en fait, vous n'avez pas porté plainte ?
Exactement, ça m'a poursuivi. Une année après, j'ai commencé à développer un trouble de déglutition. On a mis des années à trouver, enfin, à traiter. Et pour moi, ce n'est pas anodin que ça se soit déclenché à ce moment-là. On me disait, arrête ton cinéma, que en fait, c'était une maladie allergique orpheline. Mais dès que je suis chez mes parents, je la déclenche. Je fais des blocages œsophagiens dès que je suis là-bas. C'est ça, ça a été d'autres choses. Et c'est terrible, là. Enfin, c'est terrible parce que je pourrais dépasser l'agression si j'avais été soutenue. Mais là, c'est comme si, à chaque fois que j'y vais, je revis quelque chose de l'ordre de la répétition, pas dans le terme de l'agression, mais dans le terme de on ne me reconnaît pas, on ne me croit pas, comme on ne me croit pas victime. Et c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué.
Et je suppose que c'est extrêmement compliqué encore aujourd'hui, parce que tout le monde fait comme si rien ne s'était passé.
Exactement. Et là où j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a un jour, il y a un ami, 2 ans après l'agression, qui est venu avec moi chez mes parents parce qu'on devait déposer des affaires. Et j'arrive, donc j'y allais quasiment plus, et j'arrive et je vois qu'il y avait une assiette en plus à table. Donc elle était déjà au courant. Hein. Et je lui dis, mais c'est une assiette pour qui? Et donc là, elle me cite le nom de l'agresseur. Et j'étais complètement sidérée. Je lui dis, tu vas quand même pas m'imposer de manger à table avec lui. Elle me dit, il fait partie de la famille, il a sa place à table. Il est comme chez lui ici, il a sa place à table comme toi. Et j'étais complètement sidérée.
Mais oui,
j'étais m'étonnée. Tétanisée. Et pourtant, je suis d'un tempérament plutôt combatif, mais je me suis assise en me disant, mais c'est pas possible une trahison pareille. J'ai eu l'impression de vivre vraiment la trahison d'une vie. Et il est arrivé, joyeux, détendu, comme si de rien n'était. Et au moment où il a voulu serrer la main de cet ami lui a répondu, il lui a dit, écoutez, si je me lève, je vous casse la gueule. Et là, il s'est aperçu qu'en fait, le secret était ébruité et il est resté tétanisé. Et moi, je l'ai vu et j'étais mais comme libérée d'un secret parce que je lui avais expliqué. Mais je ne pensais pas que mon ami allait avoir une position si ferme. Et en fait, il m'a complètement libérée. Là, en voyant l'agresseur donc fuir, avec ma mère qui lui courait après en lui disant « Reviens, mais reviens !» Et je ne saurais, même là, 10 ans après, je ne saurais pas comment le remercier parce que pour lui, ça n'a pas été grand-chose, mais pour moi, ça m'a complètement libérée de quelque chose.
Mais ça vous a complètement libérée, j'entends, mais reste que le comportement de votre mère est extrêmement blessant et je suppose que ça n'est pas digéré, ça.
Ah non, ça, par contre, non, parce que ce que j'ai réussi à faire... c'est que j'ai réussi à imposer à ma famille de ne pas être en contact avec cet homme-là. Mmh. Donc il a interdiction de venir quand je suis là, il a interdiction de me parler, il a interdiction de m'appeler, voilà.
Vous y allez souvent dans votre famille ?
Alors le problème, c'est que depuis que j'ai eu des enfants, mes enfants réclament à y aller.
D'accord.
Et ça, c'est une vraie difficulté pour moi.
Oui, parce que j'allais vous dire, j'allais vous conseiller de tenter de cesser pour l'instant d'y aller et de rompre un peu les relations avec cette famille, histoire de faire bouger un peu les choses, vous voyez, parce que là...
Ah mais ça, eux, si j'étais seule, enfin, je suis désolée, je vous interromps.
Je vous en prie,
je ne compterais pas pour grand-chose, hein. Je vous le dis très honnêtement.
Mmh. Et c'est important c'est important pour vous de compter à leurs yeux quand on sait comment... ils réagissent devant une situation comme celle-là, qui est extrêmement grave, où en fait, on décide de couvrir l'innommable, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que votre mère qui fait ça, il y a votre sœur aussi.
Mon père, bon, maintenant il est grabataire, mais il a toujours couvert aussi, même quand je lui ai dit frontalement les mots, ça n'a eu aucune influence, aucune. J'ai eu de la chance pour me reconstruire, c'est que j'ai eu des bons conseils, c'est-à-dire que j'ai eu un médecin généraliste qui m'a orienté vers de l'hypnose pour soigner les troubles post-traumatiques,
oui.
Parce que j'avais des crises d'angoisse, des choses comme ça. Oui. Maintenant, je ne les ai plus, j'ai plus de crises de larmes, j'ai plus peur de me promener seule, enfin, il y a plein de choses que je n'ai plus. Mais par contre, l'idée de revenir, là, jusqu'à Noël dernier, j'avais sa photo en face de moi à table, quoi.
Et est-ce que vous en avez parlé à vos enfants ? Quel âge ont vos enfants ?
Ils ont 4 et 6 ans.
Non, oui. Donc, il ne faut pas parler de ces choses-là.
Alors, j'ai
enfin, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut en parler ou pas, ou comment, en tout cas. Mais...
J'ai expliqué que cette personne, je ne voulais pas qu'il la rencontre, hein, parce qu'il avait fait, il avait été très méchant avec moi. Voilà.
Ben oui. Mmh.
Et que souvent, parce que le problème, c'est que là où j'aimerais pouvoir pardonner à ma mère, mais je n'y arrive pas encore. Je ne sais pas si je vais y arriver un jour. Parce que le problème, c'est que ça a une incidence aussi sur l'éducation de mes enfants. Mes enfants, j'essaye d'être le plus calme possible, mais quand ils me voient chez mes parents,
ils sentent.
Que des fois, elles me provoquent. Oui, ils m'ont. Enfin, il y a une fois où j'ai carrément. Enfin, heureusement, ils n'étaient pas là, ils jouaient dans une autre pièce. J'ai carrément mis un coup de poing dans le cadre en verre où il y avait sa photo à lui.
Bon.
Tellement la provocation était là, enfin, de ma mère. Je lui ai dit, voilà.
Sophie, il faut que vous pensiez à vous dans cette histoire-là, parce que je vous explique pourquoi il faut que vous pensiez à vous. Parce que quoi qu'il arrive, vos enfants qui ont 4 et 6 ans aujourd'hui, c'est beaucoup plus important pour eux d'avoir une maman qui règle ces problématiques, cette problématique-là. Parce que je sens que même si votre ami ce jour-là a pris fait et cause pour vous et que voilà, il s'est imposé. Ce jour-là, de la meilleure manière qui soit, hein. Il a très bien fait. Je sens que c'est encore très lourd pour vous et que vous avez vécu Noël comme quelque chose qui vous a meurtri encore et que vous traînez encore ça aujourd'hui. Et il ne faudrait pas, vous voyez, que ça entraîne à nouveau d'autres choses que... Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous avez tout de même beaucoup souffert de cette histoire et la part de souffrance qui vous a été qu'on peut incomber à votre famille, elle est quand même très conséquente dans tout ça. Et
alors, c'est vrai que chaque année, surtout les périodes de Noël, on essaye de respecter les conventions sociales. Chaque fois. J'ai des appels de ma sœur en me disant « Tu peux pas, notre mère a 80 ans, notre père a 83, enfin, tu peux pas ne pas venir à Noël, ne
pourquoi
pas emmener les enfants. »
Pourquoi
c'est
Non
ça.
Mais pourquoi, pourquoi Dites-moi pourquoi, Sophie. Vous avez parlé de convention sociale. Vous ne m'avez pas parlé de tristesse pour vous, de quelque chose qui vous rend triste, qui vous... Voilà, qui...
À titre personnel, non, bien
mais
sûr.
Mais non, mais c'est à titre personnel que vous devez réfléchir. Et pas autrement, vous voyez, c'est à titre personnel que vous parlez, que vous éduquez vos enfants, c'est à titre personnel qu'ils vont grandir avec une maman qui aura réglé quelque chose de très important, c'est à titre personnel que un jour quand ils seront en mesure de comprendre ce qui s'est passé, croyez-moi que lorsqu'ils comprendront, ils prendront mais vraiment cause pour vous, quoi. C'est incontournable, ça. C'est-à-dire que des enfants ne supporteront pas l'idée que leur mère a été agressée par un membre de la famille qui habite à côté et que votre mère, leur grand-mère donc, et leur tante, votre sœur, vous a gentiment demandé de la fermer parce que c'était la honte sur la famille. Moi, je pense que des enfants en âge de comprendre, hein, bien évidemment. Alors aujourd'hui, il y a des mots avec lesquels, et je pense que vous pourriez même, avec l'aide d'un pédopsychiatre, qui pourrait vous aider à poser les bons mots sur cela. Mais je pense même que ça n'est pas bon pour vos enfants, lorsqu'ils vont là-bas, de baigner dans cette ambiance finalement remplie de mensonges, quoi, et remplie d'hypocrisie. Et presque, s'il n'y avait pas eu votre ami qui avait réagi ce jour-là, mais... Il se serait pointé à Noël, votre agresseur, et tout le monde aurait dit amen.
Ah mais complètement, hein. On a essayé de me l'imposer.
Et oui, je sais, vous
on
m'avez dit.
On a essayé de me l'imposer multiples fois. Hein.
C'est extrêmement grave ce qu'il a fait, cet homme. C'est si vous ne vous étiez pas défendu, cet homme vous aurait violé. En fait, c'est quelqu'un, c'est un violeur, cet homme.
Oui.
Potentiel en tout cas. Et qui dit qu'il ne fera pas ça encore avec une autre femme, quoi, qui n'est peut-être pas de sa famille. Parce que quelqu'un qui monte un guet-apens comme ça, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans sa tête, vous voyez ? Et ça veut dire que ça se reproduira.
C'est ça. Et moi, le seul moment où ma sœur m'a pris au sérieux, c'est quand je lui dis, bon, si tu considères que je dois passer outre, je lui dis, bah, dépose ta fille chez lui un après-midi. Elle m'a dit, mais ça va pas, non, mais c'est ignoble ce que tu dis. Oui, je dis, c'est ignoble. Donc, tu te rends bien compte.
Non, je vais vous dire, ce qui est ignoble, Sophie, ce qui est ignoble, c'est la manière dont votre sœur se comporte. Ce qui est ignoble, c'est la manière dont votre mère se comporte. Ça, c'est ignoble. Que vous argumentiez de la sorte, c'est pour lui montrer le côté mais totalement inacceptable de la situation.
Bien sûr.
Et je pense vraiment que tant que vous n'aurez pas mis les choses au point avec votre famille, avec votre mère, votre sœur, et qui de droit, en fait, hein, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne vous ont pas reconnu comme victime, vous traînerez cette chose-là. Et vous aurez cette pression sociale là, de famille qui, à chaque fois que vous irez là-bas, vous imposera de voir vos enfants évoluer dans un environnement où vous n'êtes pas respecté. Parce que vous n'avez pas été respecté par cet homme, mais vous n'avez pas été respecté par les membres de votre famille.
Le psychologue qui a pratiqué l'hypnose pour traiter les troubles post-traumatiques m'a dit exactement la même chose que vous, il y a 6 ans. Il m'a dit, fuyez, c'est une famille toxique, fuyez.
Mais oui, mais je pense et que vous savez, je ne vous dis pas ça méchamment vis-à-vis d'eux. Hein. Je vous livre ma pensée qui est, je pense, assez logique. Où je me dis, voilà, je me dis, qu'est-ce que je peux dire à cette femme qui m'appelle ce soir et qui me raconte que finalement sa famille a validé et a couvert une tentative de viol sur elle de la part d'un membre de sa famille. C'est inacceptable. Vous comprenez ?
Oui, oui. Et moi, c'est vrai que, à titre personnel, ça a eu une incidence.
Mais ça a encore une incidence sur vous, Sophie.
Complètement.
Ça a encore une incidence sur vous.
J'ai pris 25 kilos, je me suis renfermée,
ben oui.
J'ai plus de projet, enfin...
Ça a bousillé votre vie.
D'extérieur, ça se voit pas, mais d'intérieur, j'ai perdu la joie de vivre. Il y a beaucoup de choses que j'ai perdues dans cette bataille. Beaucoup, oui.
Le papa des enfants, en fait, vous êtes encore avec lui aujourd'hui ou vous êtes séparés ?
Non, on est séparés. On a des contacts, mais on est séparés.
D'accord. Mais il est au courant de ça.
Oui, il est au courant. Mais il n'intervient pas. Il est très à distance de ça. Il demande à. Il n'a jamais vraiment voulu y aller. Je crois que pour lui, c'est plus négatif. Bah, il dit la même chose que vous.
Il a raison. On va conclure ensemble, mais vous restez avec moi. On se retrouve dans quelques instants, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite, Sophie.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h26, vous êtes sur Europe 1 et c'est Sophie qui nous parle de ce soir de l'agression qu'elle a subie par un membre de sa famille, une famille qui a couvert donc ses agissements jusqu'à inviter cet homme la table familiale quand Sophie était en visite avec ses 2 enfants. Voilà, pour Noël. Et Sophie, vraiment, je vous répète combien il va falloir que vous preniez une décision qui est incontournable pour vous. Parce que tant que vous n'aurez pas pris cette décision, vous continuerez à être dans ce sentiment d'injustice, vous voyez. Parce que bien évidemment, vous évoquez le pardon que vous n'arrivez pas à donner à votre mère. Que vous n'arrivez pas à donner à votre sœur même.
Oui,
et pour que vous arriviez peut-être à ce pardon, je dis bien peut-être, parce que le pardon est un chemin long et chaotique, mais bien évidemment qui débouche sur une certaine luminosité, une certaine connaissance, une meilleure connaissance de soi-même. Mais dans le pardon, il y a cette progression, ce chemin qu'on doit faire. Et je pense que vous devez vous protéger. Et puis aussi, je pense qu'il faut que vous provoquiez une réflexion chez ceux qui ne vous ont pas protégé.
Mais je pense qu'il n'y a pas de réflexion. Enfin, c'est terrible à dire, mais sur mes deux grossesses, j'ai interdit à ma mère de m'approcher parce que je n'aurais pas supporté les accouchements, les visites à la maternité. Je lui ai interdit de venir. Ça lui a posé, enfin, elle a râlé, mais ça ne lui a posé aucun problème profond. Pas du tout. Pas du tout. Et tous les moments importants de ma vie, je l'ai exclu.
Mais aujourd'hui, Sophie, quelle relation elle a avec vos enfants ?
Elle les voit régulièrement, une fois par mois,
oui.
Une journée ou deux, où je viens.
Et elle aime bien ?
Ah ben, elle aime beaucoup.
Mm-hmm.
Eux aussi aiment beaucoup.
Mm-hmm.
Puis moi, j'attends.
Mm-hmm.
Voilà, j'attends.
Bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrêter ça. Vous voyez, vous allez arrêter et vos enfants, ils ont 6 ans et 4 ans. Donc, il faudra leur, encore une fois, leur expliquer que pour l'instant, bah, vous n'allez plus là-bas. Voilà, vous trouverez d'autres activités. Vous savez, à cet âge-là, en plus, les enfants mettent de la magie dans tout. Et je pense, en plus, que comme ils aiment leur maman, ça va aller tout seul. Parce que c'est vous qui vous, encore... Parce que vous êtes la petite fille qui a peur de prendre des décisions et qui a peur de la grande sœur là, et la maman qui vous juge, qui vous ont dit « tu ne vas pas faire du bazar hein, avec toute cette histoire, tu ne vas pas... » Mais non, non. La seule qui a raison dans cette histoire, c'est vous. Et je vous le dis, il faut que vous preniez cette décision parce que tant que vous ne l'aurez pas prise, vous n'aurez pas, en premier lieu, heurter leur conscience, vous voyez ? Et la manière de heurter leur conscience, c'est de... C'est pas votre absence.
Mais j'ai déjà été absente longtemps. Ça ne les a même pas perturbés.
Vos enfants étaient là, déjà ?
À l'époque, non. C'était
bon.
Pendant mes...
Mais oui, mais maintenant, il y a des enfants. Vous voyez ? Et en plus, je vais vous dire, ça n'est pas sain, encore une fois. Pensez à vos enfants.
Oh oui, non, mais
ça n'est pas sain.
Oui.
Pour tout un tas de raisons, ça n'est pas sain. Mais ça n'est pas sain qu'ils soient au contact de gens qui ont ces valeurs-là. C'est pas...
Oui.
C'est ça. Oui. Je vous jure que quand ils seront en âge de comprendre, ils seront révoltés, vos enfants.
Oui.
Ben oui.
Et moi, j'ai essayé d'aller auprès de ma mère en lui disant, mais... Enfin, tu te rends compte que j'ai pas pu porter plainte par ta faute, parce que tu m'as fait du chantage au suicide. Et maintenant qu'elle sait que c'est loin, elle me dit « Ah non, j'ai jamais fait ça, je m'en souviens pas. » J'ai dit
«
C'est pas possible, quoi.
Mmh. »
Et ça, je sais très bien qu'elle ment, parce que je l'ai vu mentir en maintes reprises, donc je sais très bien qu'elle ment. Et même « Tiens, mendicus !» Et alors elle me dit « Bah, je m'excuse si tu veux vraiment que je m'excuse. » Mais je m'en souviens pas. Et pour moi, c'est encore pire que tout. Parce que c'est comme si moi, je mentais en racontant qu'elle m'a fait du chantage au suicide. Alors déjà qu'elle trouvait que je mentais quand j'avais raconté l'agression, et là, à nouveau,
mais oui,
j'aurais menti.
Oui. Mais vous voyez...
Et quand je lui ai dit, mais tu te rends compte, il y a tant d'années, tu as mis une assiette à table en face de moi. Elle me dit, non, ça c'est pas vrai. Et j'ai dit, écoute, alors là, je dis, tu veux que j'appelle l'ami qui a menacé de casser la figure ? Alors elle m'a dit, oui, je m'en souviens. Bon, ça, j'ai qu'une fois. Mais en fait, elle minimise tout. Et pourtant, j'ai fait le pas pour essayer d'avoir un acte résilient.
Oui, mais vous l'avez fait.
Mais vous
voyez, tous ceux qui vous écoutent ce soir, dont Patrick, qui nous écrit au 739-21, une famille malsaine de compétition, fuyez, oui. Sophie, ces gens-là ne vous méritent pas. Il y a Sébastien aussi qui nous écrit, surtout ne culpabilisez pas et ne perdez pas votre confiance en vous, surtout libérez du poids terrible du secret, veillez à toujours construire votre vie avec ou sans parents. Sans bourreau, c'est mieux. Vous voyez, c'est ce que je... Voilà, c'est bien d'avoir la vie, en plus la vie, vous voyez, je vous ai cité, alors il y a beaucoup de SMS hein, vous concernant. Sophie, une autre Sophie, hein, nous dit, ça c'est le parcours typique d'une jeune femme qui est écrasée par le poids de la famille, alors que la honte devrait se retourner sur... vous voyez, c'est... Mais bon, vous avez voulu préserver les vôtres et vous n'avez pas pensé à vous, et c'est vous qui aujourd'hui en faites les frais.
Oui, c'est ça.
Mais
oui.
Oui. Et ça, c'est pas normal.
Mais je le vois 10 ans après, je me regarde dans la glace et je ne me reconnais plus. Physiquement, moralement, la joie de vivre, ma place dans la société, bon, j'ai un travail, enfin, d'extérieur, on va dire que ça va, mais par rapport à celle que j'étais avant, je ne suis plus qu'une ombre. Ça m'a complètement... Ça m'a détruit une partie de moi quand même. En fait, l'agression, mais aussi l'attitude de la famille. Et je crois même, plus le temps passe, c'est encore plus l'attitude de la famille.
Ah, moi, j'étais en train de me dire ça dans ma tête, vous voyez. Je pense que c'est finalement plus l'attitude de la famille qui valide l'attitude de cet homme, hein, valide l'agression, en fait.
C'est ça.
Plus que, vous voyez, plus que... Parce que l'agression... vous êtes allé le voir le lendemain matin, il vous a insulté, il vous a donné plein de, je dirais, de cartes pour montrer qu'il n'était pas en place, cet homme, qu'il était l'agresseur.
Oui.
Et ça, je pense que dans votre partage ce soir, vous l'avez parfaitement décrit, et je pense que vous avez réussi à vous libérer de ça. C'est plus ce qu'on vous a fait subir dans la famille, qui vous a étouffé, qui vous a fait culpabiliser, qui vous a meurtri. Et n'importe quelle femme ou homme qui aurait vécu ce que vous avez vécu, Sophie, aurait aussi eu autant mal. Pas de culpabilité à avoir souffert, pas de culpabilité à avoir pris 25 kilos, parce que ça ne pouvait être que comme ça.
Non, maintenant, je suis souvent toline. Enfin, je sais que je suis capable de remonter. Mais pour remonter, et pour que j'essaye de retrouver celle que j'étais avant, même si je ne suis pas encore tombée bien bas, hein, comme je vous dis, j'ai eu la chance d'éviter les antidépresseurs et les anxiolytiques malgré ce qu'on les avait prescrits, parce que j'ai eu un bon pharmacien, un bon médecin, un entourage qui a su m'aider à trouver des alternatives. J'ai pu me mettre au repos quand il le fallait. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est vrai que j'ai envie aussi à nouveau d'avoir des projets personnels. J'ai envie à nouveau de retrouver un peu de joie de vivre. Et c'est vrai que vous avez raison. Tant que je n'aurai pas fait la coupure, je resterai tout le temps dans ce marasme-là.
Mais je pense que vous n'aurez pas confiance en vous pour toutes les choses que vous venez d'énumérer. Vous voyez ? C'est-à-dire que je pense que vous avez besoin de passer par cette étape de vous éloigner de ces personnes qui sont nocives, qui vous ont fait du mal, qui ne vous reconnaissent pas, en fait. Au-delà de cette agression, vous voyez, c'est lorsqu'on agit comme ça, ça veut dire qu'on ne vous reconnaît pas, même pas à votre valeur de sœur, d'enfant, de fille, vous voyez ?
Oui, complètement.
Et je pense que ça va vous libérer beaucoup, encore une fois. Est-ce que la prochaine étape, c'est de voir votre mère et votre sœur vous désavouer dans l'éducation que vous donnez à vos enfants lors d'un week-end ? Parce que ça, c'est ce qui va vous arriver aussi. C'est qu'à un moment, vous lèverez le ton, vous lèverez la voix parce que vous estimez qu'il y a à lever la voix. Et puis, on va vous dire, non mais fais pas ça avec tes enfants. C'est ça qui va vous arriver. Hein.
Oui, non mais...
Si ça n'est pas déjà arrivé, ceci dit.
Oui, et puis je sais que voilà, j'ai des difficultés aussi avec mon fils, et là-bas il décuple. Quand il est là-bas, il est encore plus difficile à canaliser que quand il avait. Non, mais je vois bien qu'il y a un impact négatif. Vous avez entièrement raison là-dessus.
Vous savez en tout cas, Sophie, où me trouver. Vous savez ce que je pense, et je pense Je pense aussi que votre psy, il y a 6 ans, vous a dit la même chose. Maintenant, je pense que la voie est toute tracée. Vous savez ce qu'il y a à faire. Il y a encore Bernadette qui nous écrit « Foncez, Sophie, la lumière est au bout de cette route chaotique, comme le dit Olivier, mais qui est si agréable lorsqu'on y arrive. Peut-être pardonnerez-vous ce jour-là. » Vous voyez, c'est, je pense que vous avez besoin d'atteindre un niveau de conscience, vous, pour vous, mais être fier de vous, d'avoir fait les choses. Vous voyez ?
Oui.
Avoir fait les... avoir pris la bonne décision.
Il y a une seule chose qui a énervé ma mère, et c'est toujours la peur du candidat-on, c'est quand je lui ai dit à Noël dernier que j'en avais parlé à un voisin, qui est un ami d'enfance, mais qui connaît aussi cette personne et qui connaît bien la famille, puisque c'est une maison qui est vraiment pas loin. Et là, elle a été choquée. Et là, elle s'est mise en colère. Et je lui ai dit... là, j'ai réalisé que vraiment, en fait, c'est pas à moi le fait que je la désavoue qui a dégéné. C'était qu'à un moment donné, cette petite histoire de famille qu'elle juge, minime, puisse éclabousser sur le village, quoi.
C'est dingue.
Et alors ça, que... elle l'a pas supporté. Alors que c'est plutôt quelqu'un que vous penseriez soumis, discrète. Et en fait, non, elle ne voulait pas que j'en parle.
Qu'est-ce qui était le plus important dans cette histoire pour votre mère ? Qu'est-ce qui était censé être le plus important ?
Que lui continue sa vie, et lui, il l'a très bien continué.
Non, mais moi, je vous dis, ce qui aurait dû être normal, c'est qu'elle vous protège d'emblée, et qu'elle ne reçoive plus cet homme chez vous, et qu'elle vous permette de porter plainte. Voilà ce qui aurait été normal.
Oui, complètement.
Or, elle a fait tout le contraire.
Oui, et elle m'a empêchée. C'est même encore, j'aurais préféré qu'elle ne... À la limite, qu'elle ne me soutienne pas, ou qu'elle se tienne à l'écart, mais qu'elle fasse le chantage au suicide pour pas que j'aille porter plainte. Et qu'en plus, après, une fois que la prescription est faite, ou que le temps a passé et que j'ai pas de preuves, qu'elle dise « Ah, mais je n'ai jamais dit ça. » Ça, c'était horrible. Parce que ça voulait dire que si je mentais pour ça, je mentais pour tout.
Exactement.
Et où était ma parole ? Et où était la vérité ? On ne pouvait plus le savoir.
Exactement. Et aujourd'hui, rien n'a changé de ça. Hein. Quand vous allez là-bas,
rien n'a changé.
Je pense que dans votre tête, vous êtes toujours cette fille qu'on a traitée de menteuse, cette fille qui est capable de mentir, capable de coller la honte sur cette famille. Je pense que c'est comme ça que vous le sentez en plus.
Donc, Bien sûr, alors qu'il a avoué les faits. Qu'il a avoué. C'est ça qui est terrible.
Mais c'est pour ça
c'est qu'encore il aurait nié, mais non.
Ne vous infligez plus tout ça, Sophie. Vous verrez quand je vous dis que ça va la faire réfléchir, votre mère, de ne plus voir ses petits-enfants pendant un moment, là. D'en être privée. Eh bien, elle aura tout loisir de réfléchir à cette histoire. Et de se dire que si elle avait agi comme une mère, elle verrait en tant que grand-mère ses petits-enfants. Or, quelle confiance vous pouvez lui faire à cette grand-mère vis-à-vis de vos enfants ? Si elle a ce type de valeur-là, qu'est-ce qu'elle va transmettre comme valeur à vos enfants ? La valeur du mensonge ? Non, non. Vous le savez de toute façon.
Oui, vous avez entièrement raison.
Alors, n'hésitez pas. Et comme je vous le disais, vous savez où me trouver si vous avez besoin de me rappeler, de m'en parler.
Écoutez, je vous remercie. Et puis, je voulais vraiment aussi, par mon témoignage, passer un message aux personnes qui ont vécu une agression ou pire que ce que j'ai vécu, de ne pas laisser croire que ça va passer avec le temps, de ne pas se laisser ensevelir par la famille. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes qui vivent des choses comme ça et qui se disent qu'avec le temps, ça va passer. Moi-même, j'ai été la première. Puis c'est pas vrai, ça passe pas. Tant que la justice n'est pas faite ou vous n'avez pas retrouvé votre dignité personnelle en rétablissant la vérité, ça vous pourrit le quotidien.
Vous voyez,
si votre Et oui. Ça, vraiment, je veux le passer comme message, même aux parents. Aux parents qui écoutent, ou même aux victimes elles-mêmes. Il ne faut pas laisser passer.
Votre message est entendu. Lara vous écrit que les spécialistes en victimologie disent que le rejet ou la négation de la part des proches est aussi traumatique que l'agression. Et que elle a vécu la même chose que vous. Et ne plus y aller serait sûrement une libération pour vous. Qu'elle a connu la même situation. Partir m'a donné des ailes, vous dit-elle, et mon fils a très bien compris et m'a encouragé en ce sens. Ne sous-estimez pas la capacité de vos enfants à non seulement à vous comprendre, mais aussi à faire bloc avec vous, Sophie. Hein ?
Oui, je crois. Vraiment, j'ai confiance en eux aussi. La petite qui a 4 ans est un jour allée voir ma mère et lui a dit « Tu sais, maman, elle est très en colère parce que tu mens et c'est pas possible. Tu peux pas mentir comme ça. » Parce qu'un jour, elle m'avait vue en colère et elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit « Mamie me traite de menteuse et alors que c'est pas vrai. » Puis c'est elle qui ment parce qu'elle m'avait trouvée en pleurs. Et elle est allée voir directement ma mère en lui disant pas ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je leur inflige aux enfants? Qu'est-ce que je leur inflige pour 3 heures de visite?
Et vous ne leur infligez rien.
Ils ont très bien compris.
Mais oui, vous ne leur infligez rien. Vous savez, les enfants, ils sont beaucoup plus... ils comprennent beaucoup plus de choses que vous ne le croyez. Vraiment. Je vous embrasse, Sophie. Je vous souhaite bon courage. Mais je vous en prie. Vous savez que si vous avez besoin de force, avant même de prendre la décision, vous pouvez nous rappeler.
Ben, merci. Et puis merci aux personnes qui ont pris le temps de m'écouter, qui ont envoyé tous les SMS de soutien. Voilà. Merci beaucoup.
Vous êtes entendu. Je vous embrasse. Passez une bonne nuit.
Et moi aussi.
Et baisez aux enfants. Bonne nuit. Au revoir.
Merci. Au revoir.